Eh bien, bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu particulier parce que c'est la première fois en fait que je fais une conférence comme ça, une conférence qui est à la fois écrite et un petit peu improvisée aussi. Je vous invite à venir avec moi et me suivre dans mon parcours de lectrice, mon parcours de petite fille qui a lu, qui a vu, puis de jeune fille, d'adolescente et enfin d'adulte, et de voir en fait comment les imaginaires, comment la façon dont les corps sont représentés, la façon dont les personnages féminins sont représentés, la façon dont les dynamiques de couple, les dynamiques de genre, la violence, comment la violence est représentée, comment tout ça, ça peut influencer une pensée, un imaginaire, une façon de se construire. Voilà. Donc tout ça, ce sera très situé. Parce que moi, je suis née en 1998, je suis une femme blanche cisgenre, j'ai 27 ans, et mon accès à la lecture a principalement été grâce aux librairies indépendantes, mais aussi grâce aux médiathèques, on va parler un tout petit peu. Et donc, qu'est-ce qui était à disposition d'une jeune femme, d'une petite fille, à cette époque ? On va commencer tout doucement. À travers différentes choses. Je vais vous amener à Saint-Lô. Saint-Lô, c'est une petite bourgade en Normandie, petite ville de préfecture. Si vous devez vous imaginer, c'est un week-end du 14 juillet, ou la veille d'un week-end de 14 juillet. Et dans cette médiathèque qu'on voit ici, qui a été rénovée il y a peu, sur cette place, entre les logements sociaux, l'église de la reconstruction. Eh bien, dans cette médiathèque, en cette veille du 14 juillet 2009, je crois, il y a une petite fille qui est en train de lire et qui s'est un peu cachée derrière les rayons documentaires de l'étage enfant. Et elle est plongée dans un livre qui s'appelle... Le livre des terres imaginées. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un type qui s'appelle Guillaume Duprat, qui l'a écrit. Et en fait, c'est un ouvrage destiné à un public jeunesse où il y a énormément de visions de terres non sphériques, de terres mythologiques, de terres imaginées par les peuples et dans l'histoire et de l'humanité. Alors on passe par les versions nordiques, grecques, chinoises, toute une vision de l'univers en ces pages, avec... des illustrations qui sont un peu entre une sorte de réalisme naïf à la gouache, l'aquarelle. Ben maintenant, je ne saurais pas dire. Et donc, je suis plongée dans cet ouvrage et je ne vois pas le temps passer. Et quand je me relève et que j'essaye de sortir, la bibliothécaire a disparu. Et en fait, je me rends compte que dans la précipitation d'un week-end prolongé, les employés m'ont oublié et m'ont enfermé dans la bibliothèque. Et en fait, je panique parce que j'ai genre 10 ans et que c'est la première fois que je me retrouve toute seule, enfermée, et je sais que mes parents vont m'attendre dehors et je sais qu'il n'y a pas de sortie de secours. Enfin, si, il y en a, mais elles sont fermées. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment il est resté, parce que je ne sais pas s'il y a des grands anxieux ici. Mais je savais ce moment où ça commence à taper comme ça à la poitrine et il y a tout le poids du monde justement qui vient vous écraser comme ça. Et où il n'y a plus de sortie. Et où vous vous dites que vous n'allez pas trouver de solution. Eh bien, ça, c'était moi à ce moment-là. Et depuis ce jour où j'ai été enfermée dans la bibliothèque, je crois que j'en suis jamais sortie, en fait. Et que malgré le fait que très rapidement, en fait, je vois ma mère arriver affolée de l'autre côté de la baie vitrée à taper dessus comme ça. Ah ! Et qu'on arrive à trouver un agent territorial qui n'était pas encore parti en week-end pour ouvrir la sortie de secours. Je crois que je suis restée dans la bibliothèque, en fait. Et que je cherche toujours des livres comme des cartes. Des livres comme des machines à vivre, comme des matières à penser, comme des matières à exister, et que c'est comme si j'avais pas le logiciel, en fait, et qu'il fallait que j'aille chercher dans des livres pour trouver les solutions. Parce que quand on est petit, on pense que c'est les grands qui ont les solutions. Donc forcément, dans les livres qui sont écrits par les grands, il y a les solutions. Ce que je savais pas, c'est que même les adultes, en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Et qu'en consommant encore et encore tous les ouvrages de la section adulte de la médiathèque municipale, à chercher dans tous les rayons bandes dessinées et documentaires des librairies, et bien en fait, tout ce que je faisais, c'était accumuler une certaine dose de poison petit à petit. Parce que quand on y pense... Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, là. Peut-être que vous connaissez. C'est la philosophe Donna Haraway. C'est une philosophe féministe qui a écrit, par exemple, le manifeste Cyborg dans les années 80 aux États-Unis. Et dans son ouvrage « Vivre avec le trouble » que j'ai ici, elle nous propose de penser de nouvelles façons de créer des récits et de les raconter. Ce ne soit plus des récits de combat, des récits virils, des récits où, en fait... il y a des méchants et où ce n'est pas des créations de mondes, mais des endroits où les mondes sont juste répétés dans des dynamiques de violence. Un de ces premiers mondes dont je vais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est les mondes d'Aldébaran de Léo, qu'on voit ici, ces illustrations. Alors Léo, il faut le savoir, c'est un auteur brésilien qui a fui la dictature militaire dans les années 70 et qui, dans les années 90, commence une série qui continue à ce jour, qui s'appelle Les Mondes d'Aldébaran, qui se passe sur une exoplanète qui a été colonisée par les humains 100 ans auparavant et qui n'a plus de contact avec la Terre. Et sur cette planète, cette exoplanète peuplée de magnifiques créatures où il y a toute une encyclopédie illustrée, eh bien, une dictature se met en place, une dictature qui essaye de contrôler le corps des femmes avec une politique de pronatalité qui est extrêmement violente, avec une insémination forcée des femmes dans les prisons, avec une injonction perpétuelle à la conception et une assignation véritablement du corps des femmes à leur rôle de mère et de reproductrice. Ça, c'est une série de livres que j'ai lus quand j'avais... je pense, toute jeune adolescente, 12-13 ans. Et en fait, rétrospectivement, le problème de cette BD, c'est qu'il y a un peu une double violence là-dedans. C'est à la fois que l'auteur est extrêmement conscient de la violence auquel sont soumis les corps féminins, qui construit une dictature où le corps des femmes est opprimé, mais que lui-même, dans son récit, opprime par la façon dont le récit racontait ces personnages féminins. Parce que dans cette série, il y a un personnage qui s'appelle Kim. Et Kim, en fait, dans le premier tome, elle a 13 ans. Et elle voit son village se faire raser par une créature marine. Et donc, elle doit intégrer cet énorme traumatisme et partir en voyage pour trouver une vie meilleure. Et le problème, c'est que Kim est constamment sexualisée. Kim a 13 ans, mais Kim se fait séduire. Kim a 13 ans, mais elle a peur de se faire violer par des soldats. Kim a 13 ans, mais elle a extrêmement conscience du fait que elle est déjà perçue comme une adulte. Et ça, c'est la volonté de l'auteur. Hein. C'est pas, c'est l'auteur qui a écrit son personnage comme ça. Et étrangement, il fait un peu demi-tour dans la suite des cycles qui changent de point de vue. Le premier cycle est d'un point de vue masculin, les autres sont du point de vue féminin. Mais, donc, en fait, quand j'y pense, à ma toute jeune adolescence, les premières phrases que j'ai entendues, c'est « À 13 ans, les femmes veulent des gens plus matures. » À 16 ans, on est déjà prête, en fait, à vouloir des hommes qui sont dans la vingtaine, la trentaine. Et tout est fait pour que ce personnage, qui est donc intégré à un système patriarcal extrêmement oppressif, trace son propre chemin. Mais elle ne sortira jamais de cette dynamique de... Elle ne sortira jamais de ce jeu de miroir, en fait. La deuxième chose qui est très dommage avec ce récit, c'est que donc il y avait un monde où il y avait tout à faire, un monde où c'est des exoplanètes, où il y a toute une cosmogonie à imaginer, toute une manière d'être au monde à imaginer. Il y a une biologie qui est ultra détaillée, avec un gros travail sur le vivant, en fait, comment le vivant a évolué sur ces mondes. Et en fait, en relisant ce récit qui m'a énormément influencée étant petite, je me rends compte que c'est juste une toile de fond, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour un space opéra, un soap opéra, où l'interrelationnalité des personnages prime sur la construction d'un monde en devenir. Et j'ai trouvé ça très décevant. J'ai été déçue en relisant cet ouvrage, parce que moi, quand j'étais petite, ce que je voyais, c'était la possibilité du voyage intergalactique. La possibilité qu'il y ait des formes d'intelligence autres que les nôtres, la possibilité qu'il y ait un animal qui s'appelle la mantrice, qui est un océan sentient, comme on peut le voir dans Solaris, par exemple, si vous connaissez. Et que toute cette création soit réduite à une dynamique de personnages, on voit ici, avec une scène particulièrement grotesque où, après 3 ans d'absence, elle lui fait une déclaration où elle lui dit « Je rêve tout le temps de toi ». Qu'est-ce que j'ai envie de toi ? Il y a 10 pages comme ça, alors qu'il y a la dictature. Genre, ils doivent se battre. Bref. Tout ça, c'est de se dire que, en fait, on va grandir. On va grandir en pensant que un personnage féminin, même s'il est très très fort, à la fin, elle aura toujours envie, très très envie du personnage masculin. Rien à voir. Ici, nous avons une peinture faite par un artiste que j'ai trouvé sur Instagram. Oups. Oula. Il veut pas. Pour moi, ça c'est mieux que la série Aldébaran, même si c'est juste en une case. Parce que là, on a quoi ? On a 2 vivants, séparés par quelques dizaines, 165 millions d'années, qui s'étreignent comme ça, et qui, en fait, nous permettent juste d'imaginer c'est quoi les liens de parenté entre ce Parasaurolophus à droite et ce chat obèse à gauche ? C'est quoi l'espace qu'il y a entre eux ? Qu'ensuite ils viennent s'étreindre comme ça sur une peinture qui est postée ensuite sur un réseau social maîtrisé par des GAFAM. C'est quoi le deuil qu'il y a là-dedans, en fait ? Voilà. C'est quand qu'on va penser au deuil ? Vous inquiétez pas, ça va quelque part, hein. Donc, une autre bande dessinée dont je vais parler, c'est le Peter Pan de Loisel. Je ne sais pas si vous connaissez, pareil, c'est maintenant une bande dessinée qui date un petit peu. Et entre le Peter Pan de Loisel et Black Sad, ben, il y a une introduction. Loisel a fait l'introduction du premier tome de l'intégrale de Black Sad. Je ne sais pas si vous connaissez Black Sad. Voilà. Polar, roman noir. Ça, c'est la deuxième page du premier tome de Black Sad. Qui, pareil, est quelque chose que je suis allée chercher sur des étagères de parents, d'amis de parents. Et alors, sur les trois premières pages des deux premiers poèmes, on assiste d'abord à un féminicide, ensuite à un enlèvement d'enfants. Et malgré toute la subtilité qu'il y a dans ces ouvrages qui m'ont énormément marquée, tout ce que je me dis, c'est la représentation du corps, du féminin, est une représentation du corps en souffrance. Un corps passif, un corps avec une balle dans la tête. Et le personnage actif là-dedans, ce sera donc le détective qui, dans la lignée, on va dire, du polar américain, ira venger son ancien amour en y en tirer une balle dans la tête de l'assassin. Voilà. Et je ne sais pas en fait ce que ça fait. Si on devait revenir au Peter Pan de Loisel aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est un truc qui m'a énormément marqué quand j'étais petite, c'était lors d'un dîner chez des amis de mes parents. J'étais tombée dessus parce que pour moi, Peter Pan, c'était la magie, c'était Disney. Et donc, j'ouvre le livre et là, je tombe sur une scène d'une extrême violence où une mère, en fait, agresse son enfant. Voilà. Je ne vais pas vous décrire la scène parce que moi, je ne suis même pas allée relire la BD tellement ça m'avait marqué, cette violence-là. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 5-6 ans. Et donc, je vais voir ma mère et je lui chuchote à l'oreille ce que j'ai vu. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi est-ce que dans toutes les BD dont je me souviens, dans tous les livres d'images qui n'étaient pas destinés à la jeunesse auxquels j'ai eu accès avant même d'être pubère, eh ben, il y avait de la violence contre le corps des femmes. Même si ça dénonçait, hein, parfois ça dénonçait. C'est pas OK. Mais personne n'a imaginé quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Une femme, ça se fait violer. Une femme, ça se fait tirer des balles dans la tête. Une femme, ça se fait déchirer ses vêtements quand elle court. Une femme, c'est un personnage qui est désirant. Une femme, c'est un prétexte narratif pour que l'intrigue avance. C'est pas des gens. Et en fait, je crois que dans tous les bouquins que j'essayais de lire, chercher des gens. Chercher des gens qui me ressemblaient, des gens avec mon corps, des gens avec ma voix. Et je sais pas pourtant, moi, je suis blanche, je suis cis, je suis pas hétéro. Et je crois que je cherche encore. Mais heureusement, il y a quelques ouvrages comme ça qui sont comme un baume. Qui apporte des réponses. Ou plutôt qui apporte des embranchements, des arborescences, des possibilités. On n'est plus coincé dans la femme comme prétexte narratif. Le personnage, l'enfant aussi, hein, ne pas oublier que les deux sont concomitants. Hein, la femme et l'enfant sont des prétextes narratifs, des espèces d'usines à souffrance comme ça, où on va pouvoir extraire la moelle, ce qui fait un bon polar, qui fait une bonne SF. Je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Bright Stories, ou Otoyome Gatari, si vous connaissez. Donc dans ce manga, voir que je n'ai plus trouvé mon image. Bon, à la place, je vais mettre une illustration. Voilà. Dans ce manga, Otto Yomegatari, eh bien, il y a des chapitres entiers qui sont destinés à la description des techniques de tissage utilisées par les femmes ouzbèques dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ouais, je vous jure, hein. C'est que en images, il n'y a pas de mots. Ça parle que de femmes qui vont être fiancées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment de choix, de toute façon. Elles ont le choix des broderies qu'elles vont faire, à peu près, pour leur trousseau de mariage. Et pourtant, en lisant donc Bride Stories, Otto Yomegatari, ce qui change, c'est que c'est simplement écrit par une femme, en fait. Déjà. Et que la broderie, le tissage, les travaux domestiques féminins sont mis au même niveau que les grandes quêtes masculines. On est dans un contexte qui est très particulier. On est dans l'Asie centrale de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que l'Empire russe est en pleine expansion. Et la colonisation est comme un bruit sourd pendant tout le récit. Mais cependant, la seule chose qui importe véritablement, c'est est-ce que ces femmes vont pouvoir trouver un mari ? Est-ce que ces femmes vont pouvoir devenir autre que la fille de quelqu'un ? Elles vont devenir la femme de quelqu'un. Mais juste ce petit basculement fait que trouver un mari, trouver sa place dans une société patriarcale, ça devient une odyssée. Quelque chose où c'est comme un... c'est comme... Je ne sais même pas comment expliquer. Excusez-moi. J'ai perdu mes notes.
Pardon.
Ok, bon, reprenons. Donc, dans ce manga, on va avoir accès à plein de pratiques matrimoniales, maritales. Voilà. Dont une en particulier qui s'appelle les sœurs conjointes, qui avait eu lieu en Iran, pareil, au XIXe siècle. Où, en fait, des femmes qui étaient déjà mariées, qui avaient déjà des enfants, pouvaient s'unir dans les mausolées du prophète Ali, qui est un prophète qui a une grande importance dans le soufisme. Et donc, dans ce manga qui est dédié à des femmes qui trouvent un mari, et on voit une femme mariée qui se trouve une femme, et c'est traité exactement de la même façon, d'un point de vue anthropologique. En fait, ce manga, si vous devez le lire, imaginez que c'est une anthropologie visuelle du vécu de femmes dans un lieu situé, dans une temporalité située, et que plus rien de tout ça n'existe. Parce que, par exemple, tout ça, ça se passe aux abords de la mer d'Aral. Et la mer d'Aral, ça n'existe plus. Les tissages que ces femmes ont faits, ça n'existe plus. Il n'y a plus vraiment de passation. Parce qu'il y a l'URSS qui est passée par là, il y a des couches et des couches d'histoire coloniale qui sont passées par là. Toute l'importance de la vie de ces femmes... Le patriarcat n'a pas disparu. Hein. Lorsqu'elles vont dans la maison de leur mari, il reste toujours la boniche. Mais tout ce qui faisait la vie intrinsèque des communautés féminines a été disséqué doucement pendant toute la période de la colonisation russe. Et là, je reviens au deuil. C'est quand qu'on va faire le deuil ? C'est quand qu'on va faire le deuil du vivant ? C'est quand qu'on va faire le deuil des communautés ? C'est quand qu'on va faire le deuil des mères disparues, quelles qu'elles soient. c'est quand qu'on va faire le deuil des coutumes. Et je vais faire un grand écart parce que c'est quand qu'on va faire le deuil de nos petites filles. C'est quand qu'on va faire le deuil de se dire que ben les petites filles ne sont pas autorisées à être des petites filles. Je ne sais pas si vous connaissez cet autre manga, Nana. Voilà. Monument du Josei. Où, dès les premières pages, la problématique, c'est qu'une lycéenne, donc une jeune fille de 17 ans, se retrouve le cœur brisé parce que, eh bien, son amant, qui est un homme marié, qui a peut-être 15 ans de plus qu'elle, décide de partir à Tokyo et la laisse en plan. Et donc, tout le premier chapitre de cette série, qui est quand même, pour celles qui connaissent, monumental, qui, on va dire, Girlhood is a Spectrum. Voilà, d'un côté, on est indépendante, on veut absolument réussir ses rêves. De l'autre côté, on est toujours attachée, toujours attachée au fait que nous ne serons valorisés que et seulement si nous arrivons à s'attacher à un homme. Donc ce manga commence par ce deuil-là. Elle fait le deuil de cet amour qui n'en était pas un parce qu'elle s'est fait groomed. Voilà. Elle doit se reconstruire après ça. Et toutes les relations, qu'elle construira après, elles sont faussées parce qu'elle n'est incapable, ce personnage est incapable de se penser autrement que par le prisme du regard des hommes. Et c'est une véritable tragédie pour ce personnage qui a 20 ans, c'est qu'elle va tomber sur le mauvais homme. Elle va tomber enceinte, elle va se faire agresser, elle va se marier avec son agresseur, elle va avoir l'enfant de son agresseur. Et avant même qu'elle ait pu vivre sa jeunesse, ben, l'âge qu'elle a maintenant, c'est-à-dire à 27 ans, on la voit vieillie, on la voit ridée, on la voit fatiguée. Et donc cette jeune femme qui est là, pleine de vie, dans les dessins magnifiques d'Ai Yazawa, je ne sais pas si vous connaissez, et ben elle se retrouve brisée, tout simplement parce qu'elle voulait être aimée. Et en face, juste ici, on voit l'autre Nana Ozaki, musicienne punk, indépendante, tout à fait absolutiste dans la façon dont elle gère ses sentiments, dans la façon dont elle gère ses valeurs, qui a refusé de suivre son amoureux à Tokyo quand il a décidé de faire carrière, et qui, elle aussi, se retrouvera le cœur brisé, veuve, avant d'avoir 22 ans. Parce que, en fait, bah, elle aura choisi de tracer sa propre voie. Et ce qui brise le cœur dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'on les lit petites et on se dit, mais qu'est-ce que c'est la belle vie en ville ? Un jour, on va aller dans la grande ville et un jour, on va être colocataire avec notre meilleure amie et on va dormir dans le même lit que notre meilleure amie et de temps en temps, on va peut-être se faire des bisous aussi. Voilà. Et ouais, en fait, ça, c'est juste une histoire d'un couple de femmes qui est empêché. Toute cette histoire, c'est l'histoire d'un couple de femmes empêchées par le fait qu'il y a des interférences masculines extérieures. Elles ne peuvent pas s'imaginer dans une relation entre elles. Pourtant, elles ont tout d'un couple. Elles vivent ensemble, elles dorment dans le même lit. C'est le seul amour inconditionnel qui existe dans leur vie. Et pourtant, elles vont être séparées, l'une parce qu'elle va perdre son compagnon, l'autre parce qu'elle va se marier à son agresseur. Et en fait, cette histoire, elle est inachevée. Parce que l'autrice, Ai Yazawa, la mangaka, a laissé la série en hiatus Là, ça fait 22 ans quand même, donc je ne suis pas sûre qu'on ait la fin. Et là aussi, je suis en deuil profondément. Parce que quand la résolution d'une histoire, c'est qu'il n'y en a pas, ben moi, je me retrouve encore une fois dans la bibliothèque. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi la leçon ? Pourquoi elles sont passées par là ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces amours, toute cette souffrance ? S'il n'y a pas de réponse. Et maintenant, j'ai l'âge, moi, que Nana a dans les flash-forward du manga. Quand elle est mariée, qu'elle a un enfant. Et je me dis que bah, si c'est ça, être vieille, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quoi ? Et si on remet le manga dans son contexte, c'est-à-dire le Japon du début du XXIe siècle, bah, c'est exactement ce qui arrive encore aujourd'hui aux femmes là-bas, et ici d'ailleurs. Entre nos 20 ans et nos 27 ans, qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'on soit si fatigué avant 30 piges, à faire des choix radicaux. Moi, autour de moi, il y a de plus en plus d'amis qui choisissent le célibat, qui volontairement ne se mettent pas en couple. J'ai très peu d'amis qui vivent avec leurs compagnons. Et si c'est la grande thématique de cette conférence, je dirais que bah, nous sommes tous en deuil. On est en deuil des fictions qui auraient pu être. On est en deuil des histoires qu'on nous a racontées qui étaient des mensonges. Et en fait, il nous reste tout à construire et tout à raconter. Et ça, c'est, d'une certaine façon, c'est très libérateur. Je vais regarder l'heure rapidement. Ça va. Cette conférence était censée être un abécédaire sur les lectures qui m'ont marqué depuis ma petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais quand j'ai commencé à relire les livres en question, il y a tous les fils qui sont remontés comme ça, les grosses ficelles. Ce qui fait que c'est important d'avoir des lectures qui sont adaptées et des lectures variées et une diversité dans les auteurices qui sont publiées. Parce que sinon, la seule matière auquel on a accès, ben c'est celle, par exemple, de Léo, qui, même si je suppose qu'il était très intentionné, donc on a quand même le point de vue d'un gars qui a fui une dictature, mais qui est capable de reproduire les schémas de la violence patriarcale dans ses récits et qui n'arrive pas à en sortir. Il n'arrive pas à sortir de sa programmation. Il y a des autrices qui n'arrivent pas à sortir de leur programmation. Donc où est-ce qu'on va pour trouver autre chose ? Est-ce qu'il faut qu'on lise sur les pratiques de la broderie dans l'Ouzbékistan de la deuxième moitié du XIXe siècle ? Est-ce qu'il faut qu'on lise des histoires de vivants ? Des histoires d'autres qu'humains ? J'ai terminé sur un dernier ouvrage que vous devez connaître aussi, qui est donc le Fun Home d'Alison Bechdel. Parce que si on parle de deuil, ben il faut parler d'Alison Bechdel, qui perd son père à 19 ans, qui est soi-disant tombé sous un camion. Bon. Elle avait appris peu de temps avant que son père était homosexuel. Elle avait fait son coming out lesbien juste avant. Son père se disparaît. Et elle se retrouve toute sa vie à essayer de retisser le lien qu'elle avait avec son père. Donc c'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut tisser. Arrêtez de raconter, il faut créer des mailles. Et dans le récit d'Alison Bechdel, où c'est un retour vers le passé, où elle passe par l'enfance, l'adolescence, la jeune adulte, il y a des jeux de miroirs du maillage, des maillons qui se créent entre l'histoire de son père, son histoire personnelle. Et elle se rend compte que, bien que leur histoire soit inversée, il y a énormément de circonstances qui sont un miroir l'un de l'autre. Et donc, j'ai terminé cette conférence par lire la dernière page du Fun Home d'Alison Bechdel, que je vous invite à lire. En parlant de son père, elle dit « Il s'est bel et bien abîmé dans la mer. Il a bel et bien disparu. Il a fait ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire se fondre dans une normalité, et la seule façon dont il avait accès à cette normalité, c'était dans la mort. » Elle rebondit là-dessus en disant « Mais dans la complexe narration inversée qui gouverne nos histoires entrelacées, il était là pour me rattraper quand j'ai sauté. » Et je vais terminer là. Merci beaucoup. Est-ce que le micro est débranché? Avez-vous des questions? Peut-être pas, c'est pas obligé, hein. Il n'y a rien qui est obligatoire. Et ben c'est OK. Merci beaucoup.